Cinéma.
Cinéma.
Théâtre.
Cinéma.
Théâtre.
Histoire.
Sport.
Toute la culture en débat.
Et si on en parlait ? Un magazine culturel présenté par Hamid Souhadinel, Malika Lafer et réalisé par Zoubir Kitani.
Amis auditeurs, bonjour. Il est le fils d'un grand théologien qui eut à occuper les fonctions de recteur de la mosquée de Paris, le Cheikh Abbas Ben Cheikh El-Wassini. Il est moufti de Marseille et non imam, car l'islam a besoin, selon lui, de plus de mouftis et de moins d'imams. D'Alger et sa ville natale, les études l'ont mené à fréquenter l'Azhar et la Sorbonne, les deux les plus célèbres universités dont peut rêver un bilingue comme lui. Il est partisan d'un islam tolérant, humain. Son combat, il le mène ici et ailleurs, avec intelligence et fougue, et un bruit de provocation. Ses armes, la communication, la bonne parole et l'exemple.
Monsieur Souhaib Ben Cheikh, quelques petites questions de départ. Souhaib, c'est quoi ?
Souhaib, c'est un prénom choisi par mon père, Cheikh Abbas la Yarhamou. Souhaib, c'est le premier byzantin converti à l'islam. Il a été kidnappé puis vendu comme esclave à la Mecque. Son maître l'a libéré et l'a adopté. Et comme il était blanc parmi les Arabes, plutôt brun, on l'a appelé Souhaib, le petit blanc, le blanc dîné. Souhaib Rumi, c'est un des grands compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu salam et le premier converti à la religion musulmane d'origine plutôt européenne. Voilà.
On peut dire alors que vous êtes le petit brun parmi les blancs en Europe, à Marseille. Alors pour vos études, vous avez un itinéraire assez atypique, un cursus assez atypique, en tous les cas complet, puisque vous avez fait et l'Azhar et la Sorbonne, qui sont quand même parmi les plus grandes universités qui ont un ancrage historique important. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces études ?
D'abord, mes études étaient faites à Alger. J'ouvre une petite parenthèse, je suis né à Jeddah. Et ce n'est pas de ma faute. Mon père représentait l'Algérie, était diplomate, était l'ambassadeur de l'Algérie en Arabie Saoudite. Mais on est venu très très tôt à Alger. Et c'est la ville de mon enfance, de ma jeunesse. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mes études. Et après avoir mon bac, j'ai fait Ma'had al-Uloum Diniya, qui était à cette époque à Alger Centre, puisque la faculté de Kharouba n'était pas encore ouverte, ou fonctionnelle, c'était en état de construction. Et je peux vous dire que nous étions la toute première promotion dans les études islamiques. Ce choix a été fait. Pourquoi les études islamiques ? Moi, j'ai hésité entre les études théologiques, islamiques et la philosophie. Ça, c'est mon tempérament personnel. J'évite tout ce qui est études carrées, exactes, rigoureuses, implacables, froides. Et j'ai tendance plutôt à aller vers les pensées les plus profondes, donc philosophie ou théologie. La théologie, c'est la rationalisation de la foi, ou essayer d'élucider la foi et la rendre communicable et transmissible pour le catéchisme. Donc ça, Est-ce que c'est un choix comme ça, spontané, ou bien influencé par une longue tradition familiale, puisque nous sommes les fils de Cheikh Hussein.
Cheikh Abbas bin Cheikh Hussein.
Cheikh Abbas bin Cheikh Hussein, c'est mon père. Donc nous sommes déjà des maîtres. Le mot Cheikh ne veut pas dire vieux, mais veut dire maître en matière maîtrise religieuse, en matière religieuse. Donc nous sommes une famille religieuse, traditionnellement religieuse. Depuis le père, l'ancêtre fondateur de la Zawiya de Cheikh Hussein, qui porte son nom.
Qui est situé où ?
À 30 km de Constantine. Cette Zawiya n'a pas de tariqa, donc c'est Zuhd Sunni, une ascèse sunnite, sans avoir une tariqa bien précise. Elle s'est donnée comme vocation des œuvres sociaux et surtout culturelles, puisque c'est une école. Les gens faisaient leurs études à la Zawiya avant d'aller continuer leur processus à la Zaytouna en Tunisie. Donc mon père était mon maître aussi. Il avait une vue très très faible et j'avais le bonheur et la chance de lire pour lui. Donc j'étais un peu son lecteur. Au début, je ne comprenais pas ce que je lisais pour lui. Et peu à peu, je commençais à m'intéresser au contenu d'une théologie pleine de subtilités, où parfois on trouve la chose et son contraire, qu'il y a des trentaines d'écoles juridiques et théologiques qui va de la plus rationnelle à la plus ritualiste, et toute une gamme entre les deux pôles, et un débat fructueux, fertile, qu'on appelle Munawara. Et c'est ça, normalement, qu'on doit apprendre aujourd'hui aux Algériens, que nous n'avons pas une religion qui a un clergé, ni des tuteurs, mais nous avons des courants de pensée et un débat serein entre les écoles de pensée. Quant à l'autorité, elle est juste la conscience ou l'engagement de la conscience individuelle. Voilà.
Vous avez fait l'Azhar et vous avez fait la Sorbonne. Parlez-nous-en un peu.
J'ai fait juste après la licence en sciences religieuses ici à Alger. J'avais l'ambition de continuer jusqu'au doctorat à l'Azhar. À l'Azhar, j'étais plus ou moins déçu, et ou bien j'étais trop prétentieux. Je disais je possède déjà au moins les clés de la culture, la civilisation arabo-musulmane, et je peux continuer tout seul. Donc, il vaut mieux de dépenser ce qu'il me restait de jeunesse dans la connaissance de l'autre. L'autre pour moi n'était pas le Sud-Africain ou l'Indien, mais c'était tout simplement l'Européen, hein, dont la culture envahit même nos propres maisons. On s'habille comme eux, on est influencé vraiment par eux. Donc je voulais connaître l'autre, qui était pour moi, j'étais bourré de préjugés comme eux, qui sont bourrés, chargés de préjugés sur nous. Je pensais que l'Européen est le chrétien, ce qui est tout à fait faux. Et j'aimerais bien dire que, ici à Alger, nous avions des modules obligatoires sur le christianisme et le judaïsme. En sortant de ces modules, nous disions « Ouf, alhamdoulilah, je suis musulman ». Tellement, parce que c'était très tendancieux et l'objectif n'était pas scientifique, mais plutôt pour faire valoir l'islam d'une manière très subjective et loin de toute objectivité. Donc, je suis parti en Europe.
Vous parlez de Souhel Benchir, vous parlez de déception. Où elle se situe, la déception ?
Là, écoutez, nous, à hasard, nous faisions des dictées. Des dictées, le cheikh vient, nous donne un cours, et nous étions vraiment capables d'aller nous-mêmes vers Ummahat al-Kutub, les mères livres, mères références, et aller étudier directement. Donc j'étais déçu parce que Al-Azhar jouit d'un très grand prestige de l'extérieur, mais à l'intérieur, en connaissant la chose de l'intérieur, comme la Sorbonne. La Sorbonne, vraiment, je vis ici, en Algérie par exemple. Le Sorbonnard est un homme...
En connaissance.
Mais je peux vous dire que lorsqu'on est à l'intérieur de la Sorbonne, on relativise les choses. On relativise les choses et on voit vraiment que le directeur de la recherche, qui est le professeur, ne vous apprend rien. Uniquement peut-être dans la méthodologie et la rigueur de la recherche. Quant à la connaissance, elle est lissée à la seule initiative des étudiants-chercheurs. Et l'étudiant-chercheur doctorant doit absolument aborder un domaine original, c'est-à-dire il doit rénover, il doit découvrir. Donc il n'a pas le professeur ne lui donne rien. C'est à lui, au contraire, d'enrichir la connaissance et la science de la faculté où il étudie.
Donc il y a une quête de connaissances qui est perpétuelle lorsqu'on est moufti.
Ah, ça c'est sûr. Écoutez, le jour où l'homme dit voilà, ça y est, je suis instruit, il se bloque. Au contraire, surtout en matière théologique, la théologie n'est jamais un acquis, mais plutôt une recherche constante où on ne cesse jamais de puiser au maximum des sciences et des connaissances, même profanes, parce que un message religieux ne peut se comprendre qu'à travers son vécu réel et le besoin social. Sinon, il devient juste une spiritualité. Et à quoi bon d'avoir une spiritualité qui ne se traduit pas en un acte positif dans le vécu social ? Ça c'est sûr. Et je crois que c'est valable pour toutes les branches scientifiques. Les sciences et les connaissances se développent à travers des mises en cause et des doutes. Jamais une science n'avance si elle acquit la certitude de la finalité.
De Marseille depuis combien d'années? Depuis 95. Entre le moment où vous avez terminé les études et le moment où vous êtes devenu le mufti de Marseille, qu'est-ce que vous avez eu comme itinéraire, comme expérience spirituelle de la vie, du vécu quotidien justement?
D'abord, j'étais nommé... là-bas on dit grand mufti de Marseille, ce qui est... Mufti déjà c'est pompeux, grand c'est exagéré. D'autant plus il n'y a pas le petit moufti, donc je ne comprends pas pourquoi on dit grand moufti. J'y reviens. D'abord à l'ULB, à l'Université Libre de Bruxelles, j'ai voulu connaître c'est quoi l'islamologie. L'islamologie c'est pas les études théologiques, c'est une discipline a-religieuse. Athée, la connaissance de l'islam sans engagement. Et là, j'ai vu comment... j'étais déjà très, très, très épaté devant la rigueur de la méthodologie. et la rigueur scientifique dont souffrent les études islamiques dans nos pays, ça il faut le dire. Mais j'étais très frappé par certaines mauvaises compréhensions ou des erreurs dans la compréhension du message indigne d'un débutant dans les études islamiques. Tout simplement, j'ai dit parce que ce sont des professeurs de haut niveau, certes, mais qui ne sentent pas l'islam de l'intérieur. Ils n'étaient pas des musulmans. Il faut un minimum de sympathie lorsqu'on étudie une religion. Je ne parle pas de subjectivité. Un minimum de sympathie parce que la religion n'est pas une science exacte. Si on n'aime pas une poésie, on ne peut pas la traduire. Si on n'aime pas une mélodie, on ne peut pas la jouer. Il faut un minimum de sympathie avec l'objet de notre étude pour vraiment arriver à sentir le message dans son plus profond. Mais ces interrogations n'étaient pas sans intérêt. Parce que moi, j'ai fait le judaïsme et le christianisme de la bouche des non-chrétiens et des non-juifs. Et c'est là où j'ai dit, il vaut mieux, si on veut vraiment connaître une religion, aller interroger les adeptes de cette religion. Et cette maturité a coïncidé lorsque... c'est-à-dire, j'ai eu cette maturité lorsque je me suis inscrit à la Sorbonne pour préparer un doctorat, toujours dans les sciences religieuses. Et là, j'ai commencé à interroger tout simplement le français, hein, sur sa culture, sur sa religion, en général catholique. Et mon étonnement était très très grand devant l'ignorance totale de ce qui est christianisme par les chrétiens. Et Dieu n'était pas à la mode, hein. Et voire même celui qui parle un peu de Dieu, il est ringard, il est un peu... Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que tout cela a été fait à cause d'une mauvaise compréhension et application de la laïcité. Le jour où la laïcité devient synonyme d'ignorance, c'est très dangereux, hein, parce qu'on peut facilement informer sur la religion sans forcément former des religieux, mais informer en tant que culture. Il est étonnant comment un Français a toutes les chances pour se spécialiser dans toutes les disciplines et les civilisations mortes et vivantes, hein, de l'égyptologie à la mythologie grecque, mais il est incapable, vraiment incapable, de vous expliquer l'histoire de l'Église, par exemple. Donc ma thèse de doctorat, je ne savais pas que le sujet allait être l'enjeu de la France et voire même de l'Algérie. Ma thèse de doctorat était sur l'islam et la laïcité en France. Et donc, j'étais nommé moufti de Marseille avant même l'achèvement ou hein, la rédaction de ma thèse. J'étais nommé au 95 et j'ai soutenu ma thèse en 96. Donc, il y avait un an de décalage.
Souhair Benchir, j'aimerais savoir la différence qu'il y a entre un moufti et un imam.
Bon, déjà, l'imam n'est pas un religieux dans le sens catholique du terme, hein, n'est pas un prêtre. L'imam ne garantit pas le pardon de Dieu, l'imam n'affirme pas sa condamnation, l'imam ne fournit pas de bénédiction, l'imam n'efface pas les péchés, l'imam ne reçoit pas des confessions, l'imam n'est pas un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Tout simplement, c'est un guide de prière afin de montrer que c'est une religion collective. Le moufti, par définition, puisque c'est le nominatif de celui qui donne des fatwas, doit être obligatoirement un théologien, apte à étudier le texte et formuler des réponses pour faciliter ou ancrer la religion dans le vécu d'une manière très harmonieuse. Pourquoi en France, moufti? La mosquée de Paris a nommé 7 mouftis. Je suis le plus bavard. Voilà pourquoi je suis peut-être connu. Mais il y a 7 mouftis en France, nommés tous par la mosquée de Paris. Et c'est le réseau de la mosquée de Paris. Ils sont tous des Algériens ou d'origine algérienne. Et c'était dans un cadre d'organiser l'islam en France d'une manière pyramidale. C'est-à-dire, on envoie des mouftis dans les régions. Le moufti régional forme un conseil des imams régionaux. Et au niveau national, on établit le conseil des mouftis. Donc c'est une organisation plus ou moins pyramidale pour organiser le culte musulman. La mosquée de Paris chapeautait tout ça. Je parle au passé parce que malheureusement ça a été lié uniquement à la volonté d'un ministre et non pas à la volonté de la République française elle-même. Et dès que le ministre saute, on saute tous avec lui, c'était lié à la volonté de M. Charles Pasqua. À cause de nous, hein, la mosquée de Paris, malheureusement, s'est engagée dans un domaine qui n'est pas le sien. À savoir, elle a soutenu les baladuriens pour faire plaisir à Pasqua. Normalement, une religion qui se respecte doit transcender les rivalités politiques. Chacun dans son cœur a son saint, mais lorsqu'on est religieux, on représente des centaines de milliers de fidèles, on n'a pas à afficher une couleur politique. C'est pas par sens d'être. Réduction, bien au contraire. Par grandeur, et on doit transcender toute rivalité politique.
Oui. Alors, depuis 1995, non seulement vous êtes bavard, mais vous avez la réputation d'être un perturbateur.
J'espère que vous le dites par humour. oui, je pense que nous avons énormément de choses à faire. Et beaucoup de chantiers à ouvrir, et cela ne peut se faire qu'à travers des idées simples mais fortes et qui dérangent. Un message, lorsqu'il ne dérange pas, il passe inaperçu. Qui dérange doit être armé par la science et la connaissance, l'audace, et on se contente pas de gérer le réel, mais on veut changer le réel. C'est ça, c'est les idées qui changent l'histoire, et ce n'est pas l'histoire qui crée les idées. Voilà pourquoi, moi au contraire, c'est ma fierté d'être gênant. Le jour où mon discours ne gêne personne, cela veut dire que je commence à avoir des idées copie conforme de l'ordre établi. Et cela n'est pas digne d'un homme de foi qui est là, non pas pour flatter les fidèles dans leur ignorance, mais il est là pour les éduquer et les orienter, quitte à être à l'encontre de leurs désirs.
Mais qu'est-ce qui est, selon vous, ceux qui disent de vous que vous êtes perturbateur, ils disent que vous êtes pour perturbateur par rapport à un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qui, par rapport à vous et dans votre discours, est un petit peu gênant ?
Gênant, je ne sais pas. Gênant peut-être politiquement. Parce que moi, je condamne, bien sûr, les courants islamistes, même dits modérés. Ça, je n'y crois pas. On l'est, on ne l'est pas. Mais je condamne plus ce qu'on appelle l'islam officiel. C'est tout à fait normal si le gouvernant utilise la chair de la mosquée pour étaler son autorité. C'est tout à fait normal. La même chair est convoitée par ceux qui veulent conquérir le pouvoir. Voilà pourquoi j'appelle ici en Algérie, dans cette tradition qui ne connaît pas la séparation, j'appelle à une séparation qui ne va pas affaiblir l'islam, bien au contraire, elle va le libérer de toute manipulation indigne, malsaine et qui crée une crise, parce que l'islam est une partie intégrante de notre identité.
Souhib Benchir, l'islam est la deuxième religion en France. Cependant, la communauté musulmane est dépourvue d'endroits de culte, les mosquées. Et on a l'impression que les autorités religieuses sont un peu complices.
Les autorités religieuses musulmanes ou... Non, pas... Bon, malheureusement, nous avons certains imams qui représentent qui incarne hein, ce qu'on reproche à l'islam. Ça, il faut le dire. Il y a ce qu'on appelle l'islamophobie, la crainte de l'islam, des préjugés les plus insensés se cultivent dans l'imaginaire des Français. Mais malheureusement, nous avons certains imams qui ont le talent, le génie de confirmer ces préjugés.
Non, il y a des endroits, il n'y a pas de mosquée.
C'est la maladresse de la France. Parce que, au niveau des lois et de la Constitution, la France n'est pas un État religieux. Il est a-religieux. Il est ni religieux, ni anti-religieux. Il est a-religieux. Les lois laïques ne sont ni religieuses, ni anti-religieuses. Elles sont a-religieuses. Elles exigent le respect de tout le monde. Et la République doit se plier en quatre pour que l'exercice cultuel de son choix, hein, de l'individu, s'exerce dans la dignité et la liberté. Toutes les autres religions bénéficient de ces avantages, sauf l'islam. Pourquoi ? Par frilosité identitaire. N'oublions pas que l'islam a été considéré pendant longtemps comme la religion de l'autre. Par définition, le français n'est pas musulman. Il est le descendant des Mahométans, il est le descendant des Sarrasins, des Ottomans. Tout cela est ancré dans l'imaginaire le plus profond l'inconscient français. Donc, il y a une attitude pathologique, maladive. Cette attitude, il y a une certaine volonté ou un désir d'aller condamner l'islam à l'invisibilité. Donc, il s'exerce dans des caves, des garages, des rez-de-chaussée, des hangars, loin de tout ce qui est ville. Il n'a pas pignon sur rue, l'islam. Cela est très, très, très grave, et pour la France, et pour ses musulmans. Ces endroits insalubres, c'est cette quasi-clandestinité de l'exercice islamique qui cultive davantage la crainte de l'islam. On imagine que ces lieux de culte, ce sont des caches d'armes, surtout avec les médias, etc. On imagine que ces lieux de culte, c'est des cellules qui complotent contre la France. Et côté musulman, c'est vraiment la terre la plus fertile pour cultiver tout ce qui est obscurantisme, superstition, irrationalité, arrivisme. Il faut savoir, lorsqu'on prive une religion de sa dimension naturelle, on ne la tue pas, on ne l'efface pas, elle reste. Mais malheureusement, elle devient un charlatanisme et arrivisme. Donc, mais elle reste, ce qui est vraiment dangereux.
Alors, Souhib Benchir, quelle a été votre attitude à propos du port de voile dans les écoles ?
Écoutez, déjà, notre religion nous enseigne de peser toujours le pour et le contre. Même si le port du voile est un pilier de l'islam, même si on le considère comme le jeûne du ramadan ou la prière, on pèse le pour et le contre. La science et la connaissance, l'instruction prime. À tort ou à raison, on empêche les filles de porter le foulard. D'abord, la science ne doit pas vraiment s'attarder trop sur cette question, au risque de priver la fillette d'une instruction normale. Deuxièmement, il faut absolument avoir une lecture des textes coraniques, une lecture finaliste. C'est-à-dire, quel est à chaque fois on pose la question, quel est l'objectif de la recommandation, de telle ou telle recommandation. Et on essaie de respecter, d'observer l'objectif. Et on ne s'attarde pas sur le moyen exprimé. Pourquoi l'islam, dans les trois religions révélées, monothéistes, pourquoi Dieu, dans le judaïsme, dans le christianisme, ça aussi il faut le savoir, dans l'islam, veut voiler la femme? C'est tout simplement pour préserver sa dignité, sa féminité, sa personnalité, en utilisant le moyen de l'époque. Il faut savoir qu'avant l'islam, la femme libre se voile, la femme esclave ne se voile pas. La prostituée ne se voile pas. C'est la coutume de ces mythes, si vous voulez. Et très ancienne. Aujourd'hui, si je veux respecter ces deux versets dans deux endroits différents dans le Coran qui recommandent le voile, je suis désolé, je dois réaliser l'objectif. Sinon, je risque de ridiculiser le message religieux. Si l'objectif était la préservation de la dignité, de la féminité, de la personnalité de la femme, c'est l'instruction, c'est l'éducation. Si je veux que demain, ma fille, et par coïncidence j'ai une fille, ce qui est bien pour un méditerranéen parce que ça relativise un peu son machisme.
Pour un imam et pour un mufti aussi.
Elle est trop belle, et donc je suis un peu craintif parce qu'elle va certainement faire des ravages. Et la fille d'une mufti, c'est très très gênant.
On souhaite que vous en ayez d'autres pour qu'on vous appelle Aboul Bennett.
Wallah, c'est un honneur pour moi d'être le père des filles. Donc c'est ça, il faut absolument vouloir réaliser l'objectif du texte et non pas s'attarder sur un moyen qui peut être tiré d'une société bidouine qui n'est plus la nôtre. Je vous donne un autre texte très explicite qui explique cette lecture finaliste du texte. Le prophète Mohammed nous a dit, hein, il a recommandé aux parents, nous a dit, allimu awladakum sibahata wa rimayata wa rukub al-khayl. Apprenez à vos enfants la natation, l'équitation et le tir à l'arc. Appliquer ce hadith à la lettre, c'est très mondain. Et quel snobisme, le tir à l'arc et l'équitation. Et il faut des moyens. Parce que ça va aussi avec un château, et une salle d'armes.
Un cheval qui n'est pas...
Exactement. Tout simplement, le prophète, alayhi salatu salam, a voulu que les enfants des musulmans soient en phase avec leur siècle. Si je veux observer aujourd'hui cette recommandation, je ne dois pas m'attarder sur le moyen exprimé dans le texte, mais je respecte et j'observe la finalité du texte. Donc si je veux le réaliser, ce hadith, et car je veux le réaliser, c'est tout simplement mettre mon enfant très tôt, à l'informatique, à l'apprentissage des langues. C'est de cette manière uniquement que mon enfant devient en phase avec son temps et son siècle.
Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah.
rappelle à nos amis auditeurs que nous sommes avec M. Souhib Benchir, qui est moufti de Marseille. Comment réagissent-ils aujourd'hui, les pouvoirs français? Ils sont toujours aussi frileux par rapport à la religion, l'islam?
Au niveau national, non. Au niveau local, oui. Si vous voulez effrayer un maire qui veut perdurer comme prince de sa commune, présentez-lui une demande de construction de mosquée. Dans un pays démocratique, l'opinion publique a son poids. 30% de Français sont hostiles à l'ancrage de l'islam en France. 30% pour un maire, ce n'est pas rien. Et les musulmans ne votent pas, car ils n'ont pas un civisme républicain. Je parle des jeunes, car il est anormal, là où il y a une concentration d'électeurs musulmans, c'est là où il y a la montée du Front National. Cela s'explique, cela veut dire que ces jeunes ne votent pas du tout ou votent mal. Mais malheureusement, ils s'expriment. Plus tard, par la casse, la révolte, donc tout simplement nos jeunes n'ont pas encore le civisme républicain. Ils doivent savoir que le citoyen qui nomme et destitue, ce n'est pas le maire qui offre, qui prive. Ça d'un côté. Au niveau national, j'aimerais bien vous rappeler que pour la première fois dans l'histoire de la République française entière, pas uniquement la Ve République, que l'Élysée s'ouvre officiellement à l'islam, puisque Jacques Chirac, le président de la République, a reçu 4 dignitaires musulmans, dont moi-même, pour présenter officiellement ses vœux à la communauté musulmane. C'est une nouveauté. Il faut savoir que la reconnaissance d'un religieux, le barème pour voir s'il y a une religion reconnue ou non, c'est par ce moment hautement symbolique pendant la présentation des vœux. Dans les corps constitués, le christianisme est toujours représenté par Monseigneur Lustiger, le grand rabbin Sétruc représente la communauté juive, ainsi que le président de la Fédération des protestants. J'aimerais bien informer l'auditeur algérien que le christianisme et le judaïsme s'opposent à ce que l'islam ait sa place dans la table de la République, et que la minorité protestante, non seulement elle est neutre, mais elle est très favorable, parce qu'ils sont une minorité, ils sont pour une société pluraliste. Les intellectuels et certains hommes libres savent très bien qu'au contraire, la reconnaissance de l'islam, la visibilité de l'islam, l'occasion de montrer la beauté, la transparence, la subtilité de cette religion, non seulement cela va apaiser cette crainte irrationnelle de la religion musulmane, vieille de 14 siècles, lourde d'un milliard d'individus, c'est-à-dire le cinquième ou le sixième de la planète. C'est vraiment, les musulmans sont tous porteurs du gène du crime, il n'y a pas d'avenir pour notre planète. Le cinquième ou le quart de la planète est musulman. Donc les intellectuels commencent à savoir qu'au contraire, une visibilité, une beauté, un enrichissement supplémentaire qui est l'islam, qui embellit davantage la cité française, a que des avantages. Elle apaise les esprits, on ne craint jamais le transparent, on ne craint jamais le visible. Et bien sûr, ça va consolider la citoyenneté de ces centaines de milliers de jeunes musulmans.
Vous ne pensez pas que ces craintes sont dues au fait que nous n'avons jamais pu développer de discours qui soit un peu en phase précisément avec l'islam, qui dit que Jésus est un prophète? Dernièrement, un grand maire d'une ville européenne m'a dit la chose suivante. Je suis parti dans une ville arabe en Palestine. Il a reçu un cadeau et il a été absolument... Il a eu le souffle coupé quand en accompagnant le message accompagnant ce cadeau, c'est de dire « J'offre ce cadeau pas à votre Dieu, mais à mon prophète. »
Ils ne savent pas. Je parle des non-musulmans. Ils ne savent pas. Et les musulmans ont un grand déficit de communication. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Dès qu'une caméra se rapproche d'une mosquée, on ferme les portes. Ils ne connaissent pas l'arme de la... Au lieu de présenter ces lieux de culte insalubres entre les évacuations d'eau et d'ordures, pour montrer comment dans le pays berceau de la liberté religieuse, les musulmans, les artistes ont prié Dieu toujours dans la beauté, dans la grandeur. Non, au contraire, ils sont honteux de ces endroits. On dirait que c'est de leur faute. Donc nous avons un grand déficit de communication. Et puis certaines communications, moi je préfère que pas de communication, mieux qu'une maladresse qui confirme ce qu'on reproche à l'islam. Un imam que je connais, un imam à Marseille que je connais, très spirituel, très gentil, très correct, Inch'Allah qu'il mout, tellement spirituel. On lui a posé la question. Arte elle a fait une grande émission sur un sujet très sensationnel, la religion et l'amour, ça c'est le titre. Bien sûr, on a présenté le judaïsme. C'est des gens qui savent parler, qui savent communiquer. On a présenté le christianisme. C'est des gens qui savent communiquer, qui savent transmettre. Et on a présenté un imam qui ne parle pas en français. Et il est traduit immédiatement et fidèlement cette fois-ci. Pourquoi ? On lui a posé la question sur la polygamie. Pour lui, il veut défendre sa religion. Il a dit, mais ça c'est bien. Comme ça, l'homme... ne tombe pas dans l'adultère. Imaginez si l'une des femmes, hachakum ala kulli hal, l'une des femmes est indisposée, donc il trouve l'autre femme, comme ça il ne tombera jamais dans l'adultère. Wallahi al-azim, si on a voulu vraiment un ennemi de l'islam, ne trouvera pas mieux pour présenter les choses de cette manière. Wesh, c'est bon, des voitures, mais vrai, pour lui, le gars, Pour lui, voilà. Et il a trouvé l'astuce pour défendre sa religion. Mais il faut dire aux autorités algériennes de ne plus nous envoyer ces imams ruraux. Car l'imam en France a un rôle social et politique très important. Et il est souvent invité dans les festivités officielles à côté d'un rabbin très instruit et d'un pasteur génie et d'un évêque érudit.
Justement, à propos de Souheib Benchir, à propos de polygamie, quelle est votre position ? Là, je vous prends au vol. Hein.
Non, la polygamie, il faut écouter, c'est clair. La polygamie, il faut lire le début de la sourate 5, et vous allez voir, la polygamie est liée aux orphelins. C'est les premiers versets, hein, donc vous n'allez pas vous perdre dans le Coran. Le Coran, il a dit, lorsqu'il a parlé de la gestion des biens des orphelins, si vous craignez d'être injuste à l'égard des orphelins, épousez donc une, deux, trois. Il parle des veuves ayant des enfants dans une société patriarcale. Sémites, que ce soit juives ou musulmanes ou araméennes, c'est un grand acte lorsqu'on se marie avec une veuve pour élever ses enfants avec les siens. C'est une autorisation, ce n'est pas un droit pour l'homme, c'est une autorisation alourdie de conditions. Mais malheureusement, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et effectivement, la polygamie a été largement autorisé dans le fiqh. Mais n'oublions pas aussi que le fiqh, il est l'enfant de sa société. Il est l'enfant d'une société patriarcale qui n'existe plus ou qui commence à disparaître. Néanmoins, il faut relativiser les choses. Dans les conférences que je donne en France, souvent on me sort cette question de la polygamie. Comment on peut vous intégrer en France, vous les polygames? Ma réponse, avez-vous déjà rencontré un polygame? Un polygame. Mais c'est vraiment, on exagère énormément les choses. Et c'est vraiment l'opposition artificielle entre la modernité française et l'archaïsme islamique, ce n'est pas réel. Il est plutôt une opposition entre les préjugés des uns et un comportement figé des autres.
Monsieur Souhib Benchir, à propos de la polygamie, pour vous, c'est créer des lois rudes pour pouvoir la marginaliser?
Écoutez, concernant le code de la famille en Algérie, dommage, ça je le dis avec fermeté, dommage, je n'étais pas invité dans le colloque qui a eu dernièrement organisé par le Haut Conseil. D'après eux, ils n'ont pas pu me contacter, ce qui est, ça peut être vrai parce que je sillonne les capitales depuis maintenant 2-3 ans. Islamistes et anti-islamistes s'accordent pour dire que c'est une dictée divine. C'est faux. Le code de la famille, c'est tout simplement, on a pris le fiqh maliki tel quel, qui a été conçu pour une société tribale, masculine, et on a voulu l'imposer tel quel. Non. La tutelle pour la femme, par exemple. La tutelle pour la femme lors de son mariage, il faut savoir que les hanafites la refusent. Il y a un hadith qui l'instaure, et pour eux, non, qiyas directement, c'est-à-dire le raisonnement par analogie directement tiré du Coran, est beaucoup plus fort qu'un hadith ahad. Les malikites, ils disent, mais les hanafites disent comment? La femme a la totale liberté dans la gestion de ses biens, comment elle ne peut pas décider pour sa propre destinée, à savoir le mariage? À ma connaissance, les hanafites, c'est des musulmans. À ma connaissance, les hanafites, c'est des sunnites. Autre chose, dans une société patriarcale, la tutelle masculine sur la femme a été conçue pour uniquement défendre les droits de la femme. C'est-à-dire, devant l'homme, il n'y a que l'homme qui peut vraiment préserver le droit de... C'est-à-dire, Jiblur Jelha, Andher Jelha. Nous avons ça dans notre tradition, c'est-à-dire elle a ses hommes, donc il parle avec son père, son oncle, lui seul susceptible de préserver ses droits. C'est comme ça. Mais lorsque je suis désolé, je veux que l'islam épouse son siècle. Lorsque je vois certaines militantes algériennes, mais j'ai dit que ces militantes, il vaut mieux rendre ces militantes comme tutrices, je ne sais pas si le mot existe, sur beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, vraiment, si on veut construire un état de droit, il faut absolument rendre à tous les citoyens des souverains, des majeurs, et s'ils ne se défendent pas assez, c'est-à-dire l'État ne fait pas d'information et de civisme juridique.
En défendant ces thèses, Monsieur Souhib Benchir, vous ne vous sentez pas seul, très seul?
Je ne crois pas. La quasi-totalité des musulmans, aujourd'hui, en France, en Algérie et dans le monde entier, rêvent de trouver la théorisation de leur modernité. La quasi-totalité des musulmans sont comme vous et moi. C'est-à-dire des gens qui ne cherchent que trouver la cohésion entre une religion authentique, une spiritualité authentique, une morale authentique, sans être empêchés de s'épanouir dans la cité, dans la civilisation. Donc malheureusement, je pense, je ne sais pas si je suis prétentieux ou non, ma démarche reflète le souhait de cette majorité écrasante. Maintenant, dans l'espace culturel, Hein? Les mosquées, les endroits très traditionnalistes, oui, je suis minoritaire. Et ça m'est égal. Je ne suis pas un politique, je ne me présente pas aux élections, je ne comptabilise pas les voix des sympathisants.
Les dividendes.
Exactement. Je suis un religieux, je ne possède qu'une conviction et un verbe, c'est mon seul arme, c'est mon seul outil. J'en use au maximum.
En ouvrant ainsi les portes, les lourdes portes de l'Istihad, vous ne sentez pas qu'elles se referment chaque fois que vous tentez de les ouvrir, cet Istihad qui a longtemps manqué à nos sociétés?
Écoutez, toutes les tendances musulmanes aujourd'hui, des courants les plus modernistes, aux courants les plus ritualistes appellent à l'ouverture de l'ijtihad. Et depuis trois siècles, depuis Mohammed ben Abdel Wahhab, appellent à l'ouverture de l'ijtihad. Toutes les tendances confondues appellent à l'ouverture de l'ijtihad. Mais on n'a vu aucun ijtihad. Pourquoi? Tout simplement parce que on exige à cet ijtihad les mêmes outils d'autrefois, la même méthodologie de l'autrefois. Mais c'est tout à fait normal si on utilise les mêmes canaux. On arrive au même résultat. Qui nous dit maintenant que l'ijtihad, l'ijma par exemple, est-ce qu'il est réalisable d'abord? Ijma, c'est le consensus total de tous les musulmans concernant un détail dans le droit. Qui est cette gigantesque qui prend l'initiative de... Est-ce qu'on va faire du porte-à-porte? Comment vraiment réaliser logistiquement ce ijma? Et puis, pourquoi quel hadith instaure l'infaillibilité du ijma? Le hadith, la tchtami'u ummati ala valala, jamais ma communauté n'est unanime sur un égarement, parle d'absence de ijma, parle d'absence de consensus sur un mal. Elle ne parle pas de la réalisation du consensus.
Alors, effectivement, on aurait aimé rester longtemps avec vous, mais le temps qui nous est imparti nous talonne. Alors, Souhib Benchir, vous êtes donc moufti de Marseille. Il y a une forte communauté musulmane, pour ne pas dire algérienne. On sait que vous rencontrez d'énormes problèmes, que l'intégrisme aussi est installé dans cette ville. Alors, quels sont aujourd'hui les véritables problèmes? On sait que peut-être ça vient des imams qui n'ont pas été contrôlés par, j'allais dire, par l'église, par les mouftis. Donc, toutes sortes de problèmes. Vous allez un petit peu nous parler du paysage marseillais en ce moment.
Écoutez, le paysage marseillais, il est à l'instar du paysage parisien, un échantillon de ce qui se passe en France. C'est une mosaïque en mouvement. C'est-à-dire, on ne s'habitue même pas à une fresque. Ça change. Et les imams changent. On les appelle les imams autoproclamés. Tous les chefs religieux ont un statut, sauf les imams. Il y a monsieur le rabbin, monsieur le pasteur, monsieur le curé, mais l'imam, non. Soit il est commerçant, soit il est étudiant qui a raté ses études, soit il est chômeur, soit il est sans papier. C'est vraiment dangereux. Hein. Une mosquée sans imam compétent, elle est comparable à une clinique sans médecin qualifié. On se donne la mort. Là où on va pour se guérir et préserver la vie. Donc il y a des imams. En plus, il faut composer avec eux. C'est comme ça, parce qu'il faut absolument rassembler. Donc il y a des imams qui faut les apprivoiser, comme on apprivoise les félins, les chats. Il y a d'autres qui, au contraire, ils viennent d'eux-mêmes. Et quant aux imams qui sont salariés de la mosquée de Paris, c'est les fonctionnaires d'Allah, donc je n'ai aucun problème avec eux. Ce qu'on appelle les intégristes ou les extrémistes sont très perplexes à mon attitude parce qu'ils voient quel plaidoyer je mène pour la reconnaissance de l'islam en France et qui dépasse leurs moyens. Eux, ils n'ont pas ni la connaissance ni l'audace pour aller instaurer un débat de société en France sur la reconnaissance d'une religion de cette envergure au moment où tout le monde craint l'islam. Donc ils savent, je ne crois pas qu'ils doutent de mes intentions, mais ils sont complètement gênés, voire à l'opposé de ma manière de voir ma religion.
Merci à Sohib Benchir. Évidemment, nous aurions aimé le questionner beaucoup plus, mais le temps qui nous est imparti, encore une fois, ne nous permettait pas. Bonne journée et à jeudi prochain.